Vous avez compris, nous entamons la seconde partie de cette édition et nous sommes à Kisangani pour notre dossier. L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, FAO, organise depuis lundi un atelier de formation d'une semaine sur la surveillance des maladies animales en général et particulièrement la grippe aviaire hautement pathogène. Une trentaine d'agents vétérinaires du terrain bénéficient d'un renforcement de capacité. Des détails dans ce dossier de Dorcas Kankou.
En mai 2017, la RDC a été touchée par la grippe aviaire. Un foyer de grippe aviaire, soit influenza aviaire hautement pathogène à virus H5N8, a été identifié en Ituri. À travers ce projet, la FAO vient en appui au gouvernement de la RDC pour actualiser le plan national de préparation et de réponse à l'influenza aviaire par des experts nationaux. Le professeur Philippe Connet, chef d'équipe pays de la FAO, revient sur les motivations de cet atelier.
Renforcer les capacités des agents vétérinaires pour qu'ils puissent, dans un premier temps, reconnaître la maladie, dans un deuxième temps, lutter efficacement contre cette maladie. Il est important pour nous de sensibiliser d'abord les agents vétérinaires de toutes les provinces. Alors, cette formation va permettre aux agents et provinces encore non touchées par le virus de la grippe aviaire de pouvoir être prêts lorsque une potentielle épizootie viendrait ici. Et deuxième point, nous avons fait des exercices de simulation pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut riposter. Parce que le plus important, à notre avis, c'est les mesures prises dès les premiers instants, qui sont capitales pour ne pas que la maladie puisse se propager.
Des différentes notions relatives à cette maladie ont été dispensées aux participants, notamment la définition et les principes de la biosécurité, contraintes et bonnes pratiques dans le secteur avicole, risques biosécuritaires potentiels dans les élevages, les tuileries et abattoirs et le marché. Docteur Brigitte Kanika, l'une des formatrices, nous parle des signes cliniques de la grippe aviaire.
La grippe aviaire, c'est une maladie qui sévit dans des populations de volailles. Alors, il arrive que l'on puisse remarquer dans une population déjà vaccinée contre la maladie de Newcastle que l'on remarque encore des mortalités avec des signes qui ressemblent beaucoup plus à la maladie de Newcastle. Ça, c'est déjà un signe qui peut mettre la puce à l'oreille à l'éleveur ou bien à quelqu'un qui est en train de suivre un élevage, de se dire que nous avions vacciné il n'y a pas très longtemps, mais comment ça se fait que nous avons maintenant encore la maladie. Ça, c'est un signe. Mais le plus grand signe encore, c'est que dans une population donnée, que vous vous retrouvez du jour au lendemain avec beaucoup de mortalité. La mortalité peut aller de 90 à 100%. Et cela en un ou deux jours déjà.
En cas de crise, soit l'apparition de la grippe aviaire, une bonne communication est requise pour accompagner la riposte, nous a confié le docteur Claude Ifasso, chargé de communication à la direction de production et santé animale et un de formateurs. Dans la pratique, les participants ont visité des poulaillers, les marchés et même l'abattoir.
L'invité. Comme dit dans le sommaire, l'invité de ce soir, c'est le ministre provincial de l'Environnement du Kasaï central. Il nous parle du projet du gouvernement provincial de construire des forages d'eau potable dans toutes les communes de Kananga en vue de faciliter l'accès à cette denrée et aussi à travers la province. Donc, l'exécutif provincial veut ainsi compléter la desserte en eau faite par la régie des eaux. Grégoire Ngalamoulomé s'entretient à ce sujet avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur le journaliste.
À Kananga en particulier et au Kasaï central en général, l'eau reste une denrée rare. Que compte faire le gouvernement provincial pour renverser cette tendance?
Merci monsieur le journaliste. Comme vous l'avez soulevé vous-même, l'eau c'est d'abord la vie. L'eau est une denrée importante pour la vie humaine. Mais il s'est fait malheureusement que dans la province du Kasaï central de manière générale, la population n'a pas suffisamment accès à l'eau potable, que ce soit au niveau de la ville et encore pire au niveau des milieux ruraux. Le gouvernement provincial auquel j'appartiens a fait de cette situation une de ses priorités. Et nous sommes en train de travailler durement pour que la population de notre province accède à l'eau potable. Et là, des mesures urgentes sont en train d'être prises à la fois au niveau de la ville et au niveau des milieux ruraux. Je commencerai par la ville pour vous dire qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour travailler de commun accord avec la régie des eaux, pour voir dans quelle mesure appuyer la régie des eaux dans la fourniture de l'eau au niveau de la ville. De manière complémentaire, nous sommes en train de travailler avec le SNHR et il y a deux semaines déjà, nous étions en train de faire un état des lieux, des besoins au niveau de la ville pour pouvoir compléter la desserte en eau potable de la régie des eaux par des forages qui vont être faits par le SNHR. Et le gouverneur de province a donné des instructions claires en cette matière-là. Le SNHR a fait des descentes dans toutes les 5 communes. Nous devons essayer un peu de fournir à la population de la ville, particulièrement la population environnante. On va essayer un peu d'avoir quelques forages au niveau de chaque commune pour compléter la desserte de la régie des eaux. Donc nous jouons sur deux axes au niveau de la ville. On appuie la régie des eaux pour fournir de l'eau au robinet, mais en même temps, là où il n'y a pas de robinet, nous essayons de faire un effort pour qu'il y ait des forages de manière à ce que la population accède à l'eau potable. Et la mesure de forage, c'est celle qui est plus ou moins envisagée pour l'ensemble de la province, et particulièrement dans les milieux ruraux. Là, nous avons des partenaires qui sont en train de nous appuyer sur ce plan-là. Nous avons le projet PADIR, qui a déjà construit quelques adductions, quelques forages dans un certain nombre de territoires. Et d'ici le mois de mai ou le mois de juin, il y a le projet PRISE qui a envisagé environ 20 adductions d'eau pour l'ensemble de la province du Kassai central. Et je crois qu'avec ces mesures, nous serons capables de satisfaire la demande en eau au niveau de notre population.
Vous parlez de l'appui à la régie des eaux. En quoi va consister cet appui?
L'appui va consister en des mesures telles que des facilités pour avoir le carburant ou accorder des facilités à la régie des eaux pour avoir suffisamment de carburant et pouvoir approvisionner suffisamment la population.
Les gouvernements provinciaux comptent-ils implanter combien de forages à Kananga et à travers les 5 territoires?
Le gouvernement provincial prendra en charge la situation des forages au niveau de la ville. Alors qu'au niveau des milieux ruraux, ces projets sont pris en charge par les partenaires, particulièrement PADIR et PRISE. Donc, l'état des lieux qui a été fait dans toutes les communes, ressort qu'on peut avoir environ 5 forages par commune. Mais nous allons y aller progressivement. On peut commencer par 1 ou 2 forages par commune en fonction des besoins les plus urgents.
Quel message apportez-vous au cours de cette semaine à la population de Kananga qui vous suit et à la population du Kassai central?
Le message est simple. La population du Kassai central doit savoir l'eau, c'est la vie. Mais en même temps, cette eau est un vecteur de beaucoup de maladies au niveau de l'organisme humain. Si l'eau n'est pas potable, si l'eau n'a pas été purifiée, si l'eau n'a pas été assainie de manière convenable, cette eau peut se retourner contre l'homme, contre l'organisme humain, au lieu de lui faire du bien, mais cette eau va apporter des maladies. Voilà pourquoi nous insistons auprès de notre population pour qu'elle évite, dans une certaine mesure, de consommer une eau non potable. C'est vrai que nous n'avons pas, pour le moment, de l'eau potable au robinet. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés d'accès à l'eau potable, mais il y a des solutions alternatives. On peut bouillir l'eau, même si on dit qu'on n'a pas suffisamment de braise, d'énergie pour bouillir cette eau, mais il y a des comprimés au niveau des pharmacies qui sont diffusés, au niveau des pharmacies, au niveau des centres de santé, au niveau des structures médicales, qui peuvent facilement assainir, purifier l'eau en moins de quelques minutes, et ça permet de éviter toute une série de maladies.
Monsieur Grégoire Ngalamounoumé, Radio Kapi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie, franchement.
Okapi Sport. Amis sportifs, voici vos nouvelles avec Enoch Matondo. Bonsoir.
Bonsoir Belinda Boussouma, bonsoir à tous les amis sportifs. Cannes U20, les léopards de la RDC viennent d'effectuer la reconnaissance de l'aire de jeu de la pelouse naturelle du stade de Tanzania National Main Stadium. La réunion technique se tient à 20h heure de Dar es Salaam. La conférence de presse d'avant-match, elle, a eu lieu ce matin à 10h local. Rappelons que la République démocratique du Congo sera donc reçue ce samedi à partir de 16h heure de Dar es Salaam. Pendant qu'il sera donc 14h à Kinshasa par les Taifa Stars de la Tanzanie. Barthélémy Okito et Constant Omari Selimani sont invités au bureau du conseil spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Une invitation émise par le cabinet de Luzolo Lobambi est datée du 29 mars, postée à volonté dans les réseaux sociaux. Le secrétaire général au sport et le président de la Fédération Congolaise de Football Association de se présenter ce lundi 2 avril. Le motif de cette invitation sera donc connu séance tenante à conclure donc ce texte. Contacté par notre rédaction sportive, le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, dit ne pas connaître la raison, mais confirme quand même l'existence de cette convocation. Comme la saison de la Coupe du Congo de football Asnika de Kisangani a battu le CSO Kapi, un autre club de la capitale bohémienne, sur la marque de 5-0. C'était ce vendredi au stade Amani de Bounia. Batambala, à la 28e minute, a ouvert le compteur but avant d'être imité par Salamoussi Gelor, 43e. Bassila Boston, une minute après. Et c'est sur ce score de 3-0 que les deux équipes vont donc partir à la pause. Et la seconde mi-temps a permis à Limbélé Gérès de courser l'addition à la 83e minute avant que Gulé Eli ne clôture à la 89e minute de jeu. Et donc le festival but dans l'autre rencontre, Eldorado de Bounia et le FC Mabanga de Ndélé ont fait jeu égal, 0 but partout. Et puis à Kananga, la finale des préliminaires de la 54e édition de cette Coupe du Congo de football opposera l'AS Malolé à l'AS Saint-Luc. Ce derby est donc programmé pour ce dimanche au stade des jeunes de Katoka, comme nous dit Blaise Ndongala Mayanda.
Comme la saison sportive dernière, l'AS Malolé jouera l'AS Saint-Luc en finale du tour préliminaire de la Coupe du Congo du football à Kananga. En demi-finale disputée ce vendredi, l'AS Malolé a sorti le tout violent Tshipepele en le battant sur le score de 3-0. Pascal Kasonga a ouvert le compteur à but pour les Oranges de Kananga à la 28e minute. Au retour des vestiaires, le joueur Kabantou a corsé l'addition avant que Patrick Moussassa clôture ses festivals à la 75e minute. De son côté, l'AS Saint-Luc a éliminé l'AS Kanemou. Score du match, débit à rien. Ningela à la 48e minute et Tumba à la 66e minute. La finale Malolé-Saint-Luc, c'est juste dimanche 1er avril au stade des jeunes de Katoka. Dans les rues de Kananga, les amoureux du ballon rond se réservent de parier sur ce derby. Si Malolé verrait éditer son exploit de la saison passée, Saint-Luc de son côté tient à prendre sa vengeance afin de représenter la Ligue de football du Cassé occidental démembré Lifcock à la phase finale de la 54e édition de la Coupe du Congo. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Okapi Sport.
Championnat d'Afrique des clubs champions de son en volleyball, 4e victoire de VC Espoir, 3-7-1, c'était hier face au VC Nemo d'Ouganda. Les Congolais ont gagné le premier set par 30-28, le deuxième par 25-20, avant de perdre le troisième set sur la marque de 20-25. Espoir a gagné donc le dernier set par 25-19. De son côté, le VC Mwangaza, autre représentant de l'RDC, ne pourrait plus en tout cas poursuivre avec cette aventure après avoir aligné 4 défaites d'affilée. La dernière, c'était hier face à Ali du Liberia, 0-7-3, 19-25, 23-25 et 16-25. En sport de combat taekwondo, championnat d'Afrique, déjà une médaille de bronze pour la République démocratique du Congo. C'est donc l'athlète paralympique Klaus Kalura de Goma qui l'a engrangé. C'était donc hier. Les autres athlètes de la RDC seront sur la sellette ce soir. Toujours en taekwondo, l'équipe nationale junior quitte Kinshasa ce dimanche pour Amamet en Tunisie. Les Congolais vont prendre part au championnat du monde et aux éliminatoires des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous allons terminer avec le karaté. Il se tiendra du 6 au 8 avril prochain au Maroc l'Open de Rabat. La sélection de la République démocratique du Congo y est invitée selon une source proche de cette fédération. La RDC sera représentée par 7 athlètes, parmi eux Pandemoya chez les messieurs et Nancy Tchaba, ainsi que 5 autres athlètes. L'équipe nationale de la RDC qui avait déjà commencé les entraînements quitte Kinshasa, sauf changement de dernière minute ce lundi 2 avril. Belinda Bosuma, c'est en tout cas la... Ce sont les informations sportives de ce soir. Je reviens à 19h05 pour d'autres actualités.
Merci à vous Enoch pour ces nouvelles sportives. Avant de clore, notez que ce vendredi 30 mars 2018, $1 américain s'achète à 1585 francs congolais contre 1650 francs à la vente au taux de la Banque centrale du Congo. Innocent Olinga et Babel Pongo Massimango ont coordonné ce journal supervisé par Martin Sebujango et Ben Kabamba. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Radio Kapi.